Murray Head, né le 5 mars 1946 à Londres, baigne dès l'enfance dans un milieu artistique. Sa mère est actrice, son père réalisateur et producteur. Cette atmosphère nourrie de théâtre, de musique et de récits l'oriente naturellement vers une double vocation, le chant et le jeu. Il en a fait toute sa vie. Voici la seconde partie de cette interview exclusive que Murray Head a bien voulu accorder à Radio 666. Une interview passionnante dans laquelle il se livre sans retenue. Attachant, subtil, clairvoyant, créatif, vif et pertinent, Murray Head est un modèle de talent pur, de volonté farouche et d'opiniâtreté, de générosité infinie, d'engagement, d'amour. Il a décidé d'accompagner l'orée de ses 80 ans d'une belle série de concerts en France, à ne pas manquer.
That's not what I wanna hear, Joanna. Got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero had played his trump card. He doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile. But the good old days. The image and the empire may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce.
On pourrait évoquer ensemble l'œuvre aussi de Andrew Lloyd Webber et Tim Rice, qui était d'abord album concept en 1970, et puis ensuite monté à Broadway sans vous, et enfin devenu un film opéra rock de Norman Jewison en 73, qui s'appelait donc Jesus Christ Superstar. Dans la version anglaise, vous chantez le rôle de Judas Iscariote. D'ailleurs, pour répondre aux questions de Radio 666, Judas, je trouve que c'est parfait. Et vous signez notamment le titre qui ouvre le film, il s'appelle Heaven on Their Minds.
Ouais.
My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we are. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You started to believe the things they
Judas, c'est encore une fois la figure centrale du récit qui apparaît comme la conscience critique du groupe des apôtres, inquiet de l'ascension de Jésus et des conséquences possibles. Comment est-ce que tout ça résonne pour vous, Moriède, aujourd'hui, actuellement ?
Bah, c'est une assemblée de baisers. C'est le baiser à Christ, c'est le baiser à Peter Finch dans le... C'est le baiser qui est responsable pour ma défaite. J'ai en jamais vraiment pensé à des rôles. Je me suis trouvé à une sorte de... Je pense que les Deep Purple étaient des membres d'honneur dans le truc annuaire des éditeurs. Et l'ingénieur de Jésus-Christ Superstar est venu me dire « Est-ce que vous avez redit à Tim Rice, qui était à la table, Ian Gillan, à quel point vous avez inventé la plupart de ce que vous avez chanté dans Jésus-Christ par toi. » Et c'est vrai, j'ai pas pensé. On était dans une époque où on donnait librement de soi, on comptait pas les nombres de mesures qu'on avait écrits, on s'en foutait. Ce qui était important, c'était d'arriver. Dans un sens, j'étais à cette époque, je souffrais d'anxiété grâce à mes parents, grâce à comment j'étais élevé quand j'étais plus jeune. Je pense que j'étais un enfant avec énormément de confiance et c'était bizarre, mais mes parents et de là les autres comme Schlesinger ne pensaient qu'à détruire cette confiance et de m'avoir peut-être me guider plus fort, je sais pas. Il y avait un moment, j'étais tellement confus dans le film de Schlesinger que je lui ai dit, mais comment est-ce que ces gens font les compromis et les sacrifices pour être avec moi? Comment ils acceptent ça? Je comprends pas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils voient en moi? Et Schlesinger a dit, le sexe.
Ah oui.
Et à l'époque, je l'ai pas cru. Maintenant, je le crois un petit peu plus. Mais on n'accepte pas que pour le sexe. Si c'est pour le sexe, ça vaut pas la peine de le mettre autour d'une intellectualité. Il y avait tout l'Angleterre dans ce film.
Mais oui, c'est vrai.
On pouvait pas, avec le sexe, expliquer ça. C'était fascinant. J'ai toujours eu une vie où on m'offrait quelque chose et dans très peu de temps, on m'a offert le pire. J'ai perdu la confiance ou j'ai perdu mon amour pour ce sujet. C'est très difficile. Mais ce qui est bien, c'est que ça m'a rendu quelqu'un qui est vrai, qui peut vivre avec lui-même, quelqu'un qui a vécu des hauts et des bas, mais vraiment des bas. L'histoire de Jésus-Christ Superstar, c'était que ça marchait en Angleterre, mais pas assez. Alors, ils ont allé vendre ça en Amérique.
À Broadway.
Et les Américains ont dit, ah non, on va faire ça avec les Américains.
Mais oui.
On n'est pas intéressé par les Anglais. On oublie le disque anglais. Même si c'était l'original, on s'en foutait.
Mais c'est vrai que le syndicat des musiciens aussi, je veux dire, si on fait le rapprochement entre le musical, entre le cinéma, entre la musique aux États-Unis, c'est quelque chose de très très fort. Je sais qu'il arrive à certains artistes européens d'avoir à se produire aux États-Unis. Si un artiste vient seul et qu'il embauche des Américains, tout va bien. S'il vient avec son groupe, il est obligé de payer des artistes américains qui vont rester au pied de la scène à croiser les bras.
Absolument. Mais au moins, dis la vérité. Dis pas que c'est... Le cache pas et faire pas comme si c'est... Tout est normal parce que on peut devenir fou avec une histoire pareille.
Bien sûr.
Et par exemple...
Ça va nous ramener à Say It and So dans peu de temps, Muriel, je pense.
Ok.
Vraiment.
C'est intéressant. Je vais, parce que vous avez cité Norman Jewison, je vais vous expliquer ce qui s'est passé.
Allons-y.
À l'époque, moi j'avais le même agence, William Morris, que le metteur en scène. Qui était le metteur en scène? Dis-moi son nom.
Norman Jewison?
Oui. Ouais. Et il y avait ce truc où on parlait, on disait que c'était un fait accompli. Murray va jouer Judas dans le film. En plus, c'est un vrai acteur. On va voir, etc., etc. Ça continuait. Jusqu'au moment que Norman Jewison est venu en Angleterre et il y avait une sorte de soirée avant qu'il faisait les tests.
D'accord.
Les tests films. Mm-hmm. Donc, un grand studio. et il s'est assis à côté de moi, il disait, t'es parfait pour le rôle, je suis tellement content. Et il y avait quelque chose dans son façon de parler, c'était trop américaine, c'était trop californienne, il s'entendait pas, il savait pas qu'il allait trop loin. Et moi, j'ai devenu suspicieux immédiatement, je me suis dit, il y a quelque chose d'autre en jeu en ce moment.
Il y avait une différence civilisationnelle?
Plus que ça, il y avait une différence qu'il cachait quelque chose.
Ouais.
Il était en train de mentir comme un fou. Et le lendemain, j'avais le test et à 2h du matin, ils m'ont téléphoné pour changer la chanson que je devrais faire.
Incroyable.
Alors, je suis arrivé, j'ai connu la chanson un petit peu, mais pas formidablement, parce que je pensais qu'ils cherchaient quelqu'un pour jouer Judas.
Oui.
Et que je devrais faire attention à comment est-ce que je jouais.
Donc il y a eu une incompréhension totale.
Alors il y avait une incompréhension totale, mais pas ça. Lui, il me donnait plus de temps que possible pour gâcher l'audition. Et une semaine après, non seulement mon agence et le chef de mon agence m'a téléphoné pour dire « Je viens de voir les rushs avec votre audition, c'est assez clair, vous n'êtes pas en synchro. » Et je dis « Ben, mets-moi à côté de quelqu'un qui a joué le rôle pour 2 ans dans un théâtre chaque soir,
ben oui,
connaît les paroles par cœur, sans changement de chanson, qui est là, sûr que lui va être synchro et moi non.
Voilà. »
Mais j'ai vu le film 2 ans après et c'est une merde. C'est une merde, incompréhensible. C'est ce fameux truc de Kids.
Il faut que je revoie ça, parce que j'avais vu ça à l'époque, un peu après sa sortie quand même, à la fin des années 70. Il faut que je revoie ce film pour voir si vous avez
vraiment raison. Ah, c'est nul. Je l'ai revu. C'est nul à chier. Et quand on a, par exemple, quelqu'un comme... c'est le metteur en scène de One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Ah oui, Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jackie Coulson.
Ouais, ouais. C'est qui? Miloš Forman.
Ah, Miloš Forman, voilà, bravo.
Il a 38 ans. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou.
Qu'est-ce qui a pu leur faire croire, ça?
Ça tient pas debout, leur truc, franchement.
Jack Nicholson et Matt Murphy dans le dernier film de Miloš Forman.
Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché?
Loin de là, docteur.
Excusez-moi, miss. Est-ce qu'il vous serait possible de baisser un peu le disque que vous passez pour que nous puissions parler entre nous?
Et c'est lui qui a fait Hair. Ouais, et qui l'a fait vachement bien.
Et vous êtes dans Hair aussi, non?
Ouais, 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 oui, pour un certain moment, ouais. Mais ça aussi, c'était décevant. Moi, je suis trop puriste. J'ai eu la chance, c'est trop long comme histoire, on va pas le raconter.
Ouais, tout à fait. Okay. On peut évoquer ensemble un peu quand même ce fameux tube Say It and So. On a dit déjà des choses à propos de ça, mais il y a une question quand même qui me brûle les lèvres, c'est par rapport à la vraie histoire. Alors on évoque la corruption, Richard Nixon, l'impuissance du peuple face à l'État souverain, le mensonge, la corruption, le pouvoir de l'argent, le charme du sourire carnassier, c'est exactement dans vos paroles. Muriel, est-ce qu'on peut faire résonner ces paroles d'il y a 50 ans avec la situation politique de notre monde actuellement en 2025?
Ben oui, c'est encore pire. La chanson a beaucoup plus de relevance, je sais pas relevance.
De pertinence.
De pertinence aujourd'hui qu'avant. On va vers... franchement, je pense qu'on va vers une guerre. Pour le moment, on tourne autour, mais...
On est en 1938, c'est ça l'idée.
Ouais, exactement. Exactement. Et... bon, j'ai fait mon truc, j'ai jamais fait de vidéoclip à l'époque, quand j'ai sorti, mais quand il y avait Trump, et c'était une question de démocrate ou républicain, je l'ai ressorti comme clip, j'ai filmé un clip juste pour le constat, parce que finalement, les chansons de protest, ça ne marche plus. Ça n'a aucun effet. Mais au moins, il faut quand même constater l'événement. Il faut constater aujourd'hui ce qui se passe. Il faut que ça soit là, comme on l'espère, comme preuve de l'ère ou de l'époque. Et au moins, ça a été écrit quelque part.
Ouais.
Moi, aujourd'hui, je pense que je l'ai vraiment saturé, cette chanson. Je l'ai chantée 40 000 fois.
Sans compter qu'elle a été interprétée, on en parlait tout à l'heure, en France, d'une toute autre manière. Et notamment, alors vous parlez de l'absence de clip à cette époque-là, mais il y a quand même un enregistrement récent où vous êtes à 3000 mètres d'altitude sur le pic du Midi, avec ce qu'on prend pour la mer, qui sont en fait les nuages dans la vallée, bien sûr. Il devait faire bien froid là-haut devant les spectateurs. Et vous en donnez une version absolument admirable. Je crois que ça remonte à 2017, ainsi récent. Et cette chanson, elle traverse le temps, elle traverse les âges.
I'm sure they're telling us lies, Joe, please tell us it ain't so. Say it ain't so, Joe, please say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please tell us it ain't so. They told us that our hero would lend his truck car. He doesn't know how to go on. We're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. And the infamous have fallen apart. The money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. We pinned our hopes on you, Joe, and they're ruining our show. Don't you think we're gonna get burnt? We're gonna get turned. We're gonna get learned. Yes, we're gonna get burnt. We're gonna get turned. We're gonna get learned. Yes, we're gonna get burnt. We're gonna get turned. We're gonna get.
J'aime Murray Head parce que c'est un gentleman.
Moi aussi j'aime Murray Head parce que tous ses titres sont intemporels.
Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so.
Murray Head avec Marc Loison, c'est sur Radio 666.
Il y a besoin d'être vrai à soi-même.
Et depuis le début de cette interview, en face de moi, dans le studio de Radio 666, il y a avec moi deux stagiaires, dont l'un des deux avait déjà entendu cette chanson, et dont les deux avaient déjà entendu One Night in Bangkok.
Bangkok, Oriental sitting in the city, don't know what the city is getting.
Ce sont des jeunes de 17 ans qui sont devant moi.
C'est inexplicable comment comparer ces deux chansons. Parce que malheureusement, ils n'ont rien en commun.
C'est vrai.
La seule chose, c'est le mec qui l'a fait.
Oui, oui.
Et même lui, il ne connaissait pas sa propre boulot. Dans le sens que...
Quand vous dites lui, de qui parlez-vous, pardon?
Moi.
Ah voilà, d'accord.
Satan Soul, ça vient de moi.
Oui.
One Night in Bangkok, c'est Abba, qui a écrit.
C'est ça, ouais. Qui a écrit la musique, hein. C'est Tim Rice qui a écrit les paroles. Hein.
Oui, c'est Tim Rice qui a écrit les paroles. Mais à l'époque, je fonctionnais beaucoup sur le yaourt suédois. Bjorn, son boulot, c'était les paroles. Il a écrit des paroles anglais, quasi anglais. Ils sont pas complètement anglais, mais ils avaient quand même une poésie. Pour la plupart des chansons de Chess que je chantais, j'étais provoqué par les paroles yaourt. Du moment que ça devient l'anglais et c'est Tim Rice qui l'a écrit, ça devient une autre, c'est concret et ça devient une autre chose. J'ai compris l'émotion à travers les Suédois. C'était formidable de travailler avec eux et ces deux milliardaires qui, franchement, on le saurait jamais. Ça leur touche pas, ça leur est pas changé. C'est pas comme si ils sont si riches que tout ce qu'ils disent, c'est l'empirique, c'est leur parole ou rien. C'est pas du tout comme ça. C'est comme des égales. Et je me souviens des moments géniaux avec eux.
Ouais. On parle de Benny Andersson et Björn Ulvaeus,
oui,
les deux membres
ça.
Du groupe Abba, les deux hommes,
ouais.
Hein, en fait. Et puis Tim Rice pour les paroles. Les paroles, ça décrit la lassitude du héros face à la tournée mondiale des échecs, la dureté mentale aussi de la compétition aux échecs, son mépris amusé des plaisirs touristiques, le contraste entre la ville excitante et son propre désintérêt pour tout ce qui lui paraît vraiment au-dessous de ça. La comédie musicale Chess qui mêle à la fois jeu d'échecs, une tension politique sur fond de guerre froide. On a du mal à comprendre ça en 2025, et un triangle amoureux. Et donc, depuis les années 80...
Je pense qu'on le comprend mieux en 25 quand c'est sorti en 86.
Je pensais que c'était
proche.
On était juste avant la chute du mur de Berlin. On était encore dans la polarisation Est-Ouest. Et maintenant, on a changé de socle. Il y a la montée des nouvelles puissances qui a changé la donne. Il y a la géopolitique qui s'est complexifiée. Les conflits armés, les tensions qui ont pour enjeu maintenant l'économie, l'énergie, le climat, la cybernétique. Quel est votre regard sur tous ces changements dans notre société depuis les années 80?
Le fait que je peux rien faire, je peux rien contribuer, que je dois regarder. Je suis une victime des infos. Ça m'intéresse intellectuellement, mais franchement, on est dans une époque de dictateur.
On sent l'impuissance et... alors, c'est ça?
Oui, oui, plus que jamais. Et c'est plutôt question de trouver des caves dans les Pyrénées pour se cacher avec ma famille.
Peace of mind.
We go
man to be unkind. You say that it's a miracle we're holding it together. Why don't we separate and find something better? To carry on is such a waste of time. Somebody said there's a light up ahead, but I'm losing my sense of direction. All I know, if the going is slow, I need peace. Peace of mind. Mountains of paper, a thousand words later, I'm further away from you. The phone calls, the stone walls,
quel est le rôle d'un compositeur dans sa volonté de changement ou de quête du bonheur?
Ah, dans ce sens-là que j'ai pris la retraite.
Ouais.
Je vais sortir quelque chose, peut-être 10 chansons. Je vais essayer de sortir quelque chose avant ma mort, comme si j'ai pas fini de parler ou j'ai quelque chose de plus à dire. C'est très difficile d'accepter ce qui se passe en ce moment. Mmh. C'est très simple. On nous propose quelque chose comme si c'est vraiment nouveau et c'est à cause des algorithmes et des sociétés qui les proposent.
Ouais.
60% n'écoutent pas une chanson jusqu'à la fin et 60% ont proposé que le premier chanson.
Mmh.
Et après ça, c'est si vous aimez ça, vous allez aimer ici. Et ça veut dire que la jeunesse n'ont pas vraiment des opinions.
Ça veut dire qu'on reste sur la superficialité, qu'on zappe, qu'on passe son temps à scroller,
voilà.
Qu'on va jamais dans la profondeur des choses.
Voilà. Et comme ça, on peut nous guider beaucoup plus facilement.
Mmh.
Alors maintenant, on a l'intelligence artificielle,
oui,
qui est nouveaument proposée. C'est intéressant que je vienne faire un speech à Oxford. J'étais un invité parce que j'ai passé pas mal de temps en France. J'ai été un invité à parler de Christchurch. Et puis,
la crise climatique,
c'était
ouais,
une soirée. Et la personne qui m'a invité, c'était le professeur chargé de 3 universités de côté français, dans 3 universités. Et pour lui, cette soirée, c'était sa joie. Je pense que l'invité après moi, c'était Sophie Marceau. Alors, c'était quand même, il s'intéressait à inviter les gens de la France venir. Et j'ai dit, mais quand même, vous avez des élèves spéciales avec beaucoup d'intelligence, des gens qui plaisent, qui excitent, qui fait penser que il y aura des élèves au moins qui vous donnent un plaisir. Et il dit, non, je sais pas maintenant, on sait plus qu'il y a du plagiat. Est-ce qu'il est vrai?
Ouais, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est peut-être ça qui va en partie bouleverser notre civilisation dans les années à venir. Vous, comme moi, on ne verra pas forcément. J'ai envie de dire, tant mieux.
Exactement! Exactement! C'est vrai! Alors, c'est pour ça que ça va être très dur à façonner 10 chansons qui ont quelque chose d'important à donner, quelque chose que je laisse après moi.
I remember when I was a very small boy, our house caught on fire. I never forgot the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And as I stood there shivering in my pajamas, I watched the whole world go up in flames. When it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire?
J'ai une autre question, Muriel, par rapport à la composition. Pour faire une bonne chanson, est-ce que ça doit forcément partir de l'intime ?
Ça doit partir de quelque chose qui remue dans la tête et qu'on a vraiment, on a la sensation qu'on n'a pas entendu quelqu'un d'autre parler de ça, que c'est un sujet qui doit être élevé au point que c'est une chanson et que les paroles portent quelque chose de même un point de vue qui est différent que le point de vue de société. C'est pas difficile à écrire une chanson contre les algorithmes. Merde, c'est flagrant la rapacité des sociétés aujourd'hui. Et ils fonctionnent tous sur la même histoire, le fait qu'ils sont tous anonymes,
ouais.
Ce qui permet que le blâme, c'est jamais sur le tête de quelqu'un.
Ouais, tout à fait.
Et j'ai vu que maintenant, aujourd'hui, c'est leur force.
Et les responsabilités ne sont même pas partagées avec les éditeurs et les fabricants d'IA. De toute façon, c'est pas
absolument
leur problème.
Pas.
Le problème,
absolument pas.
Et c'est comme la marque automobile qui ne va pas se sentir responsable des accidents de la route. Quoi. C'est la même chose.
Exactement.
Si vous deviez réécrire vous-même sans intelligence artificielle une de vos chansons avec le souci de lui donner une résonance actuelle, laquelle choisiriez-vous et quelle forme prendrait-elle, Muriel ?
Corporation Corridors.
Ah oui.
Don't you
j'ai appris que c'était dans une entrevue avec George Michael qui a dit qu'il faut toujours penser avec la chanson qu'elle doit être premier degré.
Oui.
L'ironie, le sarcasme, tout ça, c'est presque impossible de faire entendre.
As-tu parfois cette sensation que des portes se referment sur toi, seul et pourtant cerné par la normalité accablante, comme un lapin figé par la lumière des phares, tu restes planté, après t'avoir dérouté l'esprit par leur choix, te laisseront-ils pourrir sur place ? C'est ça, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit.
Et je leur ai donné trop d'espace. Il faut écrire quelque chose beaucoup plus précis. Celle-là, je sais pas. C'est plutôt quelles sont les chansons qui sont échappées. Quand on parle de l'intime, je pense que mon premier mariage, j'ai écrit une sorte de trilogie avec Never Even Thought, qui était la première.
It could happen to me. Maybe I've been blind. Only others can see I'm in love. What am I to do? Can I let it show? Do I keep it to myself or should I let her know I'm in love? Do I nurse it in my heart? Hold it back in my eyes? Hide it all inside, I put on a disguise. I'm in love. Have I gotta play games, even suffer the pain? Let the secret out, even suffer the doubt. I'm in love. I know it's all there, I really want to share my life.
C'était sur le disque de Satan
Soul. Satan Soul en 75.
Je n'aurais jamais pensé. Et ça, c'était le point de vue de l'homme qui sait qu'il est amoureux, mais il ne sait pas si l'autre est amoureuse de lui. Et de là, je pense que le prochain, c'était Sorry, I love you. Pardon, mais je t'aime.
Oui.
Every time we quarrel, something deep inside tells me to hold on tight. We try. It's all our pain to survive. I love you. There ain't nothing I can do about it. I love you. There ain't no other way to explain.
Et c'est, celle-là, elle est enterrée dans Between Us, mais c'est une chanson très honnête. Le commencement, l'intro, c'est une orchestre qui joue une pièce comme Penderecki, c'est très violent. Qui m'écrit un passage qui ressemble à un argument entre deux gens. Et c'est après l'argument. C'est le base, c'est pardon, je t'aime toujours.
Ouais.
Même s'il y a des choses qui ne marchent pas, même si on s'est trompé, je t'aime. Et le troisième, c'est I don't care.
Mmh. Ouais, ouais. Ça, c'est, ça boucle bien la boucle, effectivement.
Nothing seems right. Everything's
Muriel, j'ai une question qui est posée par un ami musicien italien qui s'appelle Marco Bartoccioni, qui habite à Rome et qui a une question à vous poser. Il va vous la poser en anglais. Est-ce que ça va?
Ouais. Hello, Murray. I'd love to ask you this question. So, where and how do you find the motivation to face the difficulties that I imagine?
Bonjour Murray, j'aimerais vous poser cette question. Où et comment avez-vous trouvé la motivation de faire face aux difficultés qui, j'imagine, peuvent émerger dans une carrière si riche et longue? Je suis convaincu que les grands artistes deviennent grands seulement s'ils ont un esprit fort, en particulier ceux qui ont une carrière aussi belle et aussi longue que la vôtre.
So, thank you and big greetings to Mark and Sweet Home Chicago Radio Channel.
Voilà, c'était la question de Marco Bartoccioni.
Ouais, c'est une formidable question. Eh ben, je pense qu'en tête, il y a le besoin d'être vrai à soi-même.
Ouais.
Et que, vu que ce que je faisais mieux que d'autres choses, c'était la musique, composer la musique et même la comédie, j'ai toujours rentré dans le pot du personne que je joue.
Ouais.
Et des fois, on joue un méchant, ça peut coller pour des semaines après. Et c'est embarrassant, c'est très difficile. Mais puisque j'ai ces deux talents, j'avais besoin de m'exprimer. Mon père était au commencement écrivain, après ça il était metteur en scène et puis producteur des films documentaires, quand les films documentaires comptaient. C'était très important. C'était avant le pub. Et pour lui, c'était très important de trouver l'équilibre entre noir et blanc et jour et nuit et le présenter honnêtement. Et à la base de tout, il y avait ce besoin d'honnêteté comme base.
Mmh.
Et je pense que c'est ça qui m'a guidé. Si on est vraiment un comédien, il faut s'adapter à n'importe quelle chose. Et si ça part en Amérique et on nous laisse tout tomber, il faut s'adapter, il faut l'accepter, il faut faire quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que les prix comme les Oscars et les BAFTA ou je sais pas, les Césars en France, c'est toujours 2 ans après le qu'on a fait le boulot.
Bien et, sûr, ouais.
Et on essaie de repenser pour les gens parce que
les gens découvrent.
C'est très important.
Ouais.
Mais pour nous, ça fait partie de l'histoire.
Voilà, vous êtes et déjà passé à quelque chose d'autre, effectivement.
Oui, exactement. Et alors, on peut s'adapter vraiment tout seul.
Oui.
C'est pas avec des autres qu'on va s'adapter. Et puisqu'on s'adapte, c'est plus facile à accepter les horreurs en pensant toujours, bah c'est leur problème, c'est pas le mien.
Voilà, d'accord.
J'aime Muriel parce que c'est un gentleman.
Moi aussi j'aime Muriel parce que tous ses titres sont intemporels.
Say it ain't so, Joe, please.
Murray Head avec Marc Loison, c'est sur Radio 666.
It's not what I wanna hear, Joanna. Got a right to know.
Il y a le besoin d'être vrai à soi-même.
Muriel, cette interview est vraiment passionnante. J'avais encore des tas de questions à vous poser. Je voulais quand même qu'on évoque ces prochains concerts que vous allez donner à la fin de l'année 2025. Mardi 16 décembre à Jonzac, jeudi 18 décembre à Angers, et puis vendredi 19 décembre, salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux. Vous attend également sur d'autres dates au mois de mars. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Et je voulais savoir, ça c'est une question qui m'a été posée par notre stagiaire ici à la Radio Pôle, qui vous demande quel sentiment vous procure le fait de vous dire que vous jouez vos derniers concerts.
Eh ben, j'ai déjà testé ce sujet.
Oui.
Au Canada. Je suis allé au Canada, c'est où j'ai commencé, dans le sens qu'ils étaient plus vite à m'accepter que les Français. Ça passait au Canada d'abord,
ouais,
et j'y vendais beaucoup de disques. Mais le problème avec le Canada, c'est un peu comme l'Amérique. Ça suit l'Amérique, alors ça se passe en vitesse. En France, on peut avoir le temps d'évoluer avec une chanson.
Mmh.
Là-bas, ça dure pour 3 semaines et puis c'est fini. Et la première fois que j'ai vu le Canada, c'était en 78. C'était l'époque René Lévesque et ça bondissait de culture. J'ai jamais vu autant. C'était tellement excitant de voir tout, même les trucs de dentifrice, c'était marqué en français et en anglais. Et c'était une synthèse de tout ce que j'aimais. Et il y avait le mélange de culture fabuleux.
Ouais.
Mais c'était partout. Et puis, bon, j'ai retourné quelques fois et je voyais que c'est devenu un peu Québec libre, très politique, etc., etc. Et cette dernière fois, ils m'ont demandé si je pourrais attacher le mot adieu à les concerts. Et je dis, vous pourriez, mais Et chaque journaliste que j'ai rencontré pour des produits promo, ils m'ont donné un clin d'œil. Ouais, le fin de vos jours et tout ça. Et j'ai expliqué, vous pouvez faire ça parce que c'est provoqué par des gens comme Elton John qui a fait son adieu je ne sais pas combien de fois.
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de l'ont fait.
Mais dans mon cas, quand je dis adieu, je dis adieu.
Donc là, on est sur la tournée d'adieu 2026, c'est ça, Muriel ?
Non.
Non, pas encore.
On fête mon anniversaire.
Voilà, le 5 mars 2026.
J'ai en tête, ça ne veut pas dire que je vais le copier, mais j'ai en tête quand même, c'est la seule personne à traduire Dylan.
Ah bah oui, bien sûr.
Hugo Frey.
Hugo Frey, voilà.
Frey. Et Hugo Frey,
il a 95 ans. Il a 96 ans maintenant, voilà.
Oui,
il est incroyable, cet homme.
Mais oui.
Il y a quelques semaines, je l'ai vu à Annecy. Il a donné 2h20 de concert. Il était assis. Il a donné ses 3 dernières chansons debout. Il a brandi le pied de son micro comme s'il s'agissait d'une épée. Il était un héros. C'était un chevalier de la chanson Hugo Frey.
Exactement.
C'était formidable.
Alors, pour moi, c'est la même chose. Pour le moment, je tiens debout. Et autant que la voix n'a pas changé, on continue pour le moment.
Voilà, contrairement à Elton John qui disait « I'm still standing, you are still standing
». Ouais, plus que ça. Et la tête marche aussi.
Bien sûr, on peut s'en rendre compte, ça c'est clair.
Mais tout ça, c'est parce qu'on a choisi de faire quelque chose qui nous correspond.
Ouais.
Et qui nous permet de ne pas prendre la retraite. On n'a pas besoin de prendre la retraite.
À partir du moment où on fait ce qui nous plaît.
C'est ce qu'on aime.
Et voilà.
I am going back home. I don't suppose you'll miss me when I've gone. I am tired. Sorry, I'm retreating on my own.
Pour terminer, vraiment la toute dernière question, Muriel, je voulais d'abord vous remercier pour toute cette générosité et vraiment l'intérêt extrême de cet entretien. Je l'ai vraiment ressenti au plus profond de mon cœur. Je voulais savoir, Muriel, quel mot, quel message voudriez-vous passer à nos auditeurs pour conclure notre interview ?
Quelle question !
Il n'y a pas plus ouvert comme question.
Essaye d'avoir une opinion personnelle sur tout ce qu'on veut, sur tout ce qu'on aime. Essaye de ne pas être influencé par l'extérieur. Le fait qu'il y a des influenceurs, je n'aurais jamais pensé possible,
ouais.
Et qui sont riches avec l'argent des autres, à donner leur opinion, c'est incroyable. Alors, franchement, si vous pourriez avoir une opinion sur des choses personnelles, c'est un but qu'il faut chercher. Il y avait 2 choses que je voulais dire. Oui, j'ai toujours écouté les Pink Floyd.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can?
Toujours écouter les Pink Floyd.
Oui.
Je les ai toujours. J'ai allé à pas mal de concerts quand même. Et je me trouvais en vacances, que je donnais des vacances à une de mes enfants. Et ça tombait dans le même lieu, sur le même île grecque que David Gilmour.
Oui.
Et on a trouvé qu'il était un jour de moins que moi.
Mais oui, il est né en mars 1946.
Exactement, le 6 mars. Et voilà. Moi, c'est le 5.
Oui.
On avait quand même. On sentait quelque chose quand même en commun et on parlait beaucoup pendant que les enfants étaient... J'étais là pour 2 semaines, alors on avait pas mal de moments qu'on passait ensemble. Et 2 choses m'est arrivées. L'idée que on peut rencontrer des gens très fameux, mais on peut pas espérer qu'on est dans le club quand on les a vus.
Mmh.
On les rencontre 1 fois, 2 fois dans sa vie et c'est rassurant, c'est intéressant et c'est très
enrichissant.
Enrichissant dans le fait qu'on peut être égal avec eux. Mais il y avait un moment que je lui ai dit, en pensant à l'écriture et à écrire des chansons, je lui ai dit, et alors c'est quoi maintenant, qu'est-ce que vous retournez en Angleterre pour faire quoi? Ah, il faut que je fasse un nouveau album. Ah bon? Ça veut dire les cassettes, il faut écouter les cassettes? Et il a dit ouais. Et j'ai dit, j'ai senti que on peut avoir tout l'argent du monde, mais ça ne change rien. On joue devant une cassette pour des heures et des heures et des heures, en espérant que quelque chose va sortir, d'un petit clin d'œil, quelque chose, ou un moment de passage, même un parole par-ci, par-là, quelque chose va sortir. Et on les fait spontanément, et on les écoute pas, on les fait sur... Et quand au moment qu'on doit faire un nouveau disque, on commence à réécouter les centaines de cassettes qu'on a enregistrées. Et il n'y a pas une façon, un moyen de raccourcir tout ça. Il faut le faire jusqu'à la fin. Et c'était tellement joli quand il a dit, ah ben oui, les cassettes, oh là là, il faut les requitter. Parce qu'en plus, quand on essaie, quand on fait des cassettes, on essaie des anciens thèmes qu'on a essayé une fois, deux fois, quatre fois, et ça n'a pas marché, mais peut-être ça peut marcher ce fois-ci. Et non.
Et voilà. Ça me rappelle une interview de David Bowie, à qui on posait la question sur Pink Floyd et qui disait qu'il avait toujours adoré Pink Floyd. On va quand même rappeler que David Bowie est né en 1947 et David Gilmour en 1946. Et David Bowie disait à l'intervieweur qu'il écoutait Pink Floyd depuis qu'il était gosse. Et juste à ce moment-là, David Gilmour entre dans la pièce et les deux se mettent à rigoler. C'était juste impossible. Et voilà, jusqu'où va l'admiration finalement parfois. C'est ça qui est formidable. Muriel, merci grandement pour cette tranche de vie que vous nous avez offerte sur Radio 666. Merci beaucoup. Et puis, longue vie à cette carrière qui n'en finit plus et qui va continuer à fleurir, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de gens comme vous, parce qu'on est dans la merde en 2025. On est bien d'accord?
On est bien d'accord.
Voilà. À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir, Muriel.
Merci beaucoup, Marc.
Merci beaucoup.
I've been traveling hard, though there didn't seem much to move me. And my senses were numbed as the scenery passed right through me. Found a telephone line, it was easy enough to lose me. But with you on my side, it was easy to write the storm and the tide as they bruised me. How many ways are there left to say I love you? How many ways are there left to say I love you? I kept telling myself my wounds were on the mend, but my confidence lies. Avoiding the bed that brings a sadness that's hard to define.
same empty room and the pain of us being apart. This is the time when I need to say I love you. How many ways are there left to say I love you? How many ways are there left to say I love you?
Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout, en espérant que vous avez, comme moi, appris énormément, que vous avez réfléchi, que vous avez ri aussi, que vous avez été ému peut-être, et peut-être pour certains que vous avez découvert ou redécouvert qui est véritablement Murray Head. Vous retrouverez Murray Head prochainement en concert, samedi 14 février à Besançon, Micropolis, jeudi 5 mars à Paris Olympia, samedi 7 mars à Val d'Anas, le Rotz, et samedi 14 mars à Conflans-Sainte-Honorine au théâtre Simone Signoret. La première partie de cette interview a été diffusée la semaine dernière, vous pouvez la retrouver à tout moment en podcast ou Mixcloud depuis le site de l'émission Sweet Home Chicago bluesradio.fr. A bientôt. We're gonna get loved. We're gonna get loved.